Bonjour et bienvenue à Regards Croisés avec Fulgence Blas et
Arlette Farah.
Alors là, on est là dans la dernière émission de la semaine, c'est vendredi. Bonjour Arlette.
Bonjour Fulgence.
Oui, je ne me suis pas trompé de prénom aujourd'hui.
Non, dans cette dernière émission...
Tu allais m'en vouloir.
Non, on va parler de la langue française.
Oui.
Beaucoup, on va recevoir Fanny Brossard-Charbonneau, qui est adjointe artistique et directrice des communications du Théâtre aux Écuries. Et on va parler avec elle de Paradis Artificiel, le cabaret des oxymores.
Le paradis artificiel.
Paradis artificiel, c'est surtout le mot oxymore qui est important, puisque un oxymore, c'est une figure de style qui associe deux mots qui sont contradictoires, genre par exemple imbécile heureux ou mort vivant. Donc on va en parler dans un instant, dans la deuxième partie de cette émission.
C'est très bien expliqué.
Le jamais lu parisien et le jamais lu québécois s'unissent justement pour... contrer un petit peu la pandémie et parler quand même du jamais lu. Donc on en parle dans un instant.
Moi, en première partie de l'émission, je vais parler du grand fournisseur de iPhone, téléphone cellulaire qu'on appelle Apple, qui doit verser beaucoup de millions à des utilisateurs. Et vous allez avoir les détails un peu plus tard. Et puis il y a une plainte qui a été déposée en Allemagne et en Espagne contre Apple encore. Et puis un peu plus tard, un record du monde, un arbre qui délivre un poison aussi agressif que celui d'une araignée venimeuse en Australie. Ah oui, ça existe. Bon, on va tout de suite en musique.
Allez.
Avec une toute nouvelle fraîche pièce de Ariana Grande, 34+35. You might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better say doing you right. Yeah. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. Yeah. I don't wanna keep you up, but show me can you keep it up? Yeah. 'Cause then I'll have to keep you up. So maybe I'ma keep you up. But I've been drinking coffee, and I've been eating healthy. C'est le titre, j'avais traduit en français. 34+35, c'est bien ça. Voilà, comme je disais, Apple doit verser des millions à des utilisateurs.
Oui, alors...
voilà. Cette histoire-là, vraiment, bon, ça date pas d'aujourd'hui. Bon, le montant, c'est combien, là? C'est 113 millions de dollars pour régler un litige avec une coalition d'une trentaine d'États aux États-Unis qui a déposé, cette coalition a déposé une plainte pour dire, non, ça suffit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il accuse Apple d'avoir ralenti la performance des appareils iPhone afin de masquer complètement les problèmes de batterie et pousser les utilisateurs à acheter de nouveaux modèles. C'est ça.
Quel manipulateur.
Oh, ils sont tous comme ça.
On n'est pas censé l'accepter.
Souvent, on sent nos batteries, nos appareils cellulaires qui dégagent de la chaleur, là, qui sont chauds. C'est la batterie. Donc, ils ont introduit un logiciel qui permet de ralentir la performance de l'appareil. Et les gens se plaignent. Ah, pourquoi mon appareil? Ça cache un peu cette histoire de batterie. Et puis les gens disent, bon, mon appareil est devenu lent, tout ça, et puis ils vont s'acheter un nouveau modèle.
Mais là, ils payent, ils donnent de l'argent pour pas qu'on les mène en procès, mais tous les gens qui ont acheté des appareils, on reste avec nos appareils qui sont fliqués.
Mais c'est ceux-là qui vont recevoir cet argent.
Ah d'accord.
Ouais, ceux qui ont... Et ça, c'est une trentaine d'États, sans compter, c'est une affaire qui date de 2017 d'ailleurs. Parmi ceux-là, il y a l'Arizona, il y a l'Arkansas, il y a l'Indiana. C'est différent de la procédure en cours aussi, une procédure en nom collectif d'ailleurs, laquelle d'ailleurs a pour l'admis avoir ralenti les performances de certains de ses appareils d'ailleurs, et accepté de verser, là encore, 500 millions de l'autre côté, c'est-à-dire 113 millions. Et le collectif, la procédure collective, ça c'est les États, 113 millions. Et la procédure collective, là, ça c'est 500 millions. Là, pas de commentaires. Les journalistes ont essayé de les joindre pour avoir des éclaircissements. Silence radio. Ils ne veulent pas en parler. Oui. Donc, effectivement, c'était bien caché. C'était en 2016. C'est la firme La Pomme, comme on l'appelle, qui avait... Ça concerne iPhone 6, 7 et puis SE. Ça a commencé par là. Les autres aussi ont été victimes. Ceux qui ont acheté les 8, les 9, 10, tout ça. À un moment donné, les gens se sont rendus compte que l'appareil était lent.
D'accord.
Oui. Alors, c'était une manière de camoufler cette histoire de batterie qui était défaillante, qui se réchauffait très vite. Et puis, les gens étaient obligés de se prendre un nouveau modèle. Voilà. Ils appellent ça une arnaque. Et effectivement, heureusement que les gens... Et qui a mis ça c'est un laboratoire d'analyse, la firme Primate Labs en Angleterre qui a soulevé ça. Et puis c'est le Guardian qui a sorti. Au début ils ont nié. Non, c'est pas vrai, c'est les appareils, c'est des cas isolés. Non, ça marche pas comme ça. On n'a jamais mis un certain programme ou bien manipulé l'appareil pour que les gens s'achètent de nouveaux modèles. Et quand les avocats ont commencé, les 30 États ont déposé la plainte contre eux, ils ont commencé à les chauffer et ils ont dit, bon, on va régler la milliard. Sinon, c'est des milliards qu'ils allaient payer.
Je ne vois pas pourquoi on ne les a pas menés devant les tribunaux. Mais bon, enfin, bref.
Qu'est-ce que tu en penses, toi? Là, tu n'as pas de iPhone, là, tu as un Motorola.
Non, je n'ai pas un Motorola, mais je n'ai pas d'iPhone, non, c'est vrai. Donc,
oui, moi, j'ai une Samsung, tu n'avais pas dit qu'on a l'abri de tout ça aussi, quoi.
Mais
mon nouvel appareil, quelquefois, quand je le branche et puis je le touche, il est tout chaud.
Donc, on peut porter plainte?
Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Tu sais qu'il y a une plainte qui est en cours, là, une plainte collective aussi concernant Yahoo. C'était à partir de quelle année, là, 2000, quelque chose comme ça. C'est une plainte collective. Moi, j'ai reçu deux fois un courrier de la part du... cabinet d'avocats qui s'en occupe d'ailleurs.
D'accord.
Oui, à Toronto. J'ai rien à faire. Tous ceux qui ont été concernés ou bien qui ont eu un compte de Yahoo à cette époque, bon, ça ne veut pas dire qu'on va tous avoir des millions dans nos poches. Peut-être c'est une affaire de 50 dollars ou bien 10 dollars qu'on va recevoir. Ils vont toucher des millions là-bas. D'abord, les avocats vont retirer leurs frais. Ça, c'est clair. Yahoo va payer. Et c'est le même cas comme ça. Les 113 millions, là, chaque utilisateur, pareil, c'est des millions d'utilisateurs qui ont été touchés. Combien va percevoir un utilisateur parmi ceux qui ont été touchés?
Oui, mais ceux qui ont porté plainte, parce que ceux qui n'ont pas fait partie de la plainte, qui ont été touchés,
ils n'auront rien, ça c'est clair.
Donc il faut aussi avoir fait partie de la plainte.
Voilà, ça dit les utilisateurs de ces 30 États américains qui ont porté plainte. Les autres, ils n'auront pas de sous. Voilà, pas d'argent dans les poches, pas de chèque qui va venir comme ça de la part d'Apple. On se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ils ne vont pas arrêter de nous arnaquer, hein. à un moment donné...
Il ne faut pas se laisser faire.
Il ne faut pas se laisser faire, comme tu le dis. Et puis, de l'autre côté, en Allemagne et en Espagne, il y a une autre plainte là-bas contre Apple. Parce qu'ils sont... c'est des voyous. Toutes ces grandes entreprises-là. C'est le lundi que la plainte a été déposée. Voilà. À Berlin, accusant le groupe d'utiliser des données des utilisateurs iPhone sans leur consentement. Et c'est-à-dire la plainte de l'organisation Noib, qui est la première action de ce type contre Apple d'ailleurs. Et c'est pourtant dans ses publicités proposées à ses utilisateurs un niveau élevé de protection de leurs données personnelles. Ça veut dire quoi? Ils ont installé, l'organisme est basé à Vienne, en Autriche.
Oui.
Ils ont installé un logiciel qui permet de détecter ce que tu cherches sur Internet.
Oui, mais ça fait longtemps et c'est pas que Apple, avec Samsung c'est pareil aussi. Je veux dire, on se retrouve.
Oui, mais tant qu'on porte pas plainte contre eux, ils vont continuer.
Alors, tu fais une recherche et après, hop, d'un coup, tiens, t'as le magasin qui t'écrit, il dit qu'est-ce qui se passe.
Oui, c'est pas normal.
Non, c'est pas normal.
Voilà, ça veut dire que nos données sont pas protégées.
C'est ça.
Alors
Et là, c'est pas que la faute d'Apple.
Ils sont tous là-dedans. Voilà. Alors, il faut faire attention. Les Européens, l'Union européenne a dit non, ça marche pas comme ça. Et il faut que ils veulent des explications.
Ils ont raison. L'Union européenne a raison.
Voilà. Ils n'ont qu'à enlever ça complètement de tous les appareils Apple. Ils veulent pas que les gens soient tracés. Et qu'est-ce que je cherchais?
Apple et puis Samsung aussi, parce qu'on l'a de partout. Donc on a toujours des magasins qui viennent.
Pour l'instant, c'est Apple qui est visé.
C'est Apple qui est visé, oui.
Voilà. On va en musique.
Allez.
Avec quelqu'un qu'on a déjà eu ici à Montréal, Christophe Maé. Il est où le bonheur?
Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour. J'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux, j'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut, j'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? Il est là le bonheur? Il est là? Il est là? C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, oui. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est où? il est là. Oh, mais il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Oh, mais il est où le bonheur? Mais il est là. Le bonheur, il est là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
Christophe Maé, il est où le bonheur? J'enchaîne tout de suite en
alors
disant.
Alors maintenant, on va parler de.
Avant d'arriver là, je voulais donner citer un proverbe africain qui dit: le bonheur ne s'acquiert pas. Il ne réside pas non plus dans les apparences. C'est, on le construit. C'est chacun de nous le construit à chaque pas de sa vie avec son cœur. C'est un proverbe africain, c'est un vieux.
Oui.
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui... Voilà, avant de parler de l'arbre qui tue, je reviens sur cette histoire de logiciel concernant les droits numériques, de défense des droits numériques d'Apple, la plainte qui a été déposée le lundi à Vienne. Ça dit, cet outil est baptisé Identifier for Advance, Advertiser. A-I-A-I-D-E-A, c'est-à-dire que c'est l'identifiant pour les publicitaires. Ça crée un code au niveau de l'appareil qui permet aux publicitaires de récupérer les données de tous ceux qui possèdent les iPhones.
Oui.
Identifier, hein, pour Advertiser. Voilà, c'est une précision que je voulais donner. Quoi. Maintenant, on appelle ça le record du monde. Oui.
Nous partons, mesdames, messieurs, en Australie.
Cet arbre qui délivre un poison aussi agressif que celui d'une araignée venimeuse. Ah, tu t'imagines? Le secret de ça, comme les araignées, ils injectent des septides neurotoxiques aux animaux. C'est une étude australienne toute récente là. Surtout, ne pas se fixer aux feuilles veloutées en forme de cœur des guimpies. Hein. Non, il faut oublier ça.
Plus c'est beau, plus c'est dangereux.
Voilà, qui s'y frotte, s'y pique.
Parce que nous sommes dans les proverbes, voilà. Allons-y.
Qui s'y frotte, s'y pique. Atrocement d'ailleurs. Toucher un piqueur d'ailleurs, c'est comme être brûlé à l'acide et électrocuté en même temps. Voilà, témoigne l'une des spécialistes australiennes d'ailleurs, Marina Hurley du Centre de la Science des Écosystèmes à l'Université de Sydney. Il dit ces arbres urticants, voilà, de la famille de Dendrocnidae, probablement les plus dangereux au monde, viennent enfin de livrer leur secret neurotoxique dans Science Advances. Ouais. Certains produisent des toxines très similaires au niveau moléculaire à celles des animaux venimeux. Ah, je dis, mais ceux qui vont en Australie pour se baigner partout, bien
ça, ça veut dire que ça pousse que là-bas?
Irina, oui. Pour l'instant, c'est les chercheurs australiens qui ont trouvé ça. Merci, Arlette. Irina Vetter de l'Université de Queensland à Brisbane, en Australie, et ses collègues ont scruté les toxines produites par deux espèces d'arbres piqueurs australiens. Voilà, donc c'est le géant australien Dendrocnidae excelsa qui peut atteindre 35 mètres de haut. Ce table, est de haut. Et l'arbuste Dendrocnidae moroide, qui est la plus toxique des six espèces de dendrocnine trouvées sur le continent australien. Donc, ces deux espèces que l'on trouve couramment dans les forêts tropicales de l'est du continent australien sont couvertes de poils feutrés en réalité, voilà, de multiples aiguillons hypodermiques qui peuvent pénétrer la peau et délivrer la toxine. Ça fait peur. Envoyant un grand nombre d'humains à l'hôpital, tuant des chevaux, des chiens, etc., etc.
Dis donc, on peut les voir de loin, ces arbres-là.
Il faut les connaître. Les feuilles ressemblent à un cœur. Et c'est ça. Donc, une douleur qui dure de 6 à 8 heures quand tu frottes les feuilles.
Oh.
Alors, donc, selon son expérience personnelle, la scientifique, la douleur dure de 6 à 8 heures, bien sûr, mais cela peut persister et continuer à s'enflammer pendant des jours. J'ai dit, moi, j'aimerais pas me retrouver dans cette forêt tropicale australienne.
Plus.
Voilà, voire des semaines. Donc, l'équipe a identifié les principales toxines douloureuses de ces arbres-là comme un groupe de peptides composés de 36 acides aminés, très différents de tout ce qui a pu être trouvé auparavant dans les végétaux. Alors, les scientifiques ont étudié l'effet de cette toxine la piquant sur des souris, ça a donné le même effet, bien sûr, hein, pour savoir que si ça tue déjà des humains, c'est pas les souris qui ne seront pas tuées.
Mais ils ont étudié ça, mais en fait, est-ce que ça sert aussi à autre chose? Non, c'est simplement un...
Ouais, pour savoir pourquoi est-ce que ça
pourquoi
tue,
ça
quoi.
Existe.
Pourquoi ça existe, ces arbres-là? Oui, ces
arbres sont dans ces forêts. Ça sert à quelque chose?
Non. Ah, pour l'instant, ils ne sont pas arrivés là. Ils ne sont pas arrivés là, et c'est pour dire que si vous allez faire des vacances là-bas en Australie, que vous allez dans ces forêts tropicales australiennes, faites très attention, vous voyez ces arbres aux feuilles qui ressemblent à un cœur. Alors, ne vous approchez pas.
Alors, non. Vous êtes et prêts... ne dites pas où, c'est beau, attends, je vais en ramasser pas du tout.
Oh non. Arlette, moi j'aime la forêt, mais quand on me parle des choses comme ça, là, je me tiens loin.
Bah, ça n'empêche pas de visiter de des visiter. Endroits magnifiques, mais faites attention, vous mettez les mains.
Voilà, on va terminer la première partie de l'émission avec Marathoniens, avec une jeune Australienne qui s'appelle Jodie Sternberg, c'est elle qui est au chant et au saxo.
Wow.
My
Bravo.
Room, oui.
To my room, and I'll take you far away. Why don't you just come to me, and I'll tell you what you wanna hear today. I'll give you something better than you ever had. Wrap my arms around you and make you glad. Come into my room, and I'll show you something that's only true. Come, come, don't let me down. Come into my arms, baby, and I'll turn it around. Come, come, don't let me down. Don't let me lose you. We'll turn.
Rosenberg à la voix et au saxo, avec ses deux amis français, Marathonians, My Room.
C'est une belle chanson, j'aime bien
oui.
ce qu'ils font.
Bon
choix, Fulgence.
J'aime bien ce groupe, je t'ai dit. Oui. Ils n'ont pas un style collé à eux. Hein. Oui. Ils sont très diversifiés en matière de style.
C'est bien.
Voilà, alors,
maintenant, dans la prochaine demi-heure, nous allons parler langue française et nous allons parler oxymore. Donc, je répète pour ceux qui n'auraient pas été là au début. Donc, un oxymore, c'est d'associer deux mots qui sont contraires, hein, comme révolution tranquille, par exemple. Tiens, on peut bien en parler ici au Québec. Donc, voilà, on va parler de ça avec le Jamais Lu et avec le Festival du Jamais Lu, entre la France et le Québec. Donc, on en parle dans un instant avec Fanny Brossard-Charbonneau. Et on va, après le petit moment de pub, on partira en musique avec Charlélie Couture qui nous chante de sa voix unique « Non, je n'ai pas changé ». Et j'adore entendre cette chanson. Et j'adore ce chanteur aussi. Voilà. J'aime beaucoup le grain de voix qu'il a. À tout de suite.
Vous écoutez Regards croisés avec Fulgence Blas et Arlette Farah.
Non, j'ai pas changé. Je me sens toujours étranger. C'est toi qui m'invitais le dimanche pour chanter des romances qui te faisaient voyager. Non, j'ai pas changé. Je me sens toujours aussi fou. Moi qui rêvais d'Amérique, mais qui gagnais pas assez de fric pour t'emmener n'importe où, même à Corfou. Et toi non plus, t'as pas changé. Je reconnais ton parfum léger, toujours aussi ce petit sourire qui en dit long sans vraiment tout dire. Ni toi ni moi, on a changé. Dire qu'on voulait se protéger. Moi qui voulais t'appartenir. Et toi qui tentais de me retenir. J'ai pas changé. Je suis toujours le même à t'écrire des poèmes qui commencent par je t'aime et qui finissent idem. Non, j'ai pas changé. Je suis toujours le même chemin, le seul chemin sur la terre qui a vraiment su me plaire quand on le suivait main dans la main. Et toi non plus, t'as pas changé. Je reconnais ton parfum léger, toujours ton petit sourire qui en dit long sans vraiment tout dire. Ni toi ni moi, on a changé. Dire qu'on voulait se protéger, toi qui rêvais d'avenir, et moi qui ne cessais d'aller et venir. Non, j'ai pas changé, mais c'est le monde qui a changé.
Extraordinaire chanson. Fanny Brossard-Charbonneau, bonjour.
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 Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous? Merci de l'invitation.
Ben oui, parce qu'on va parler, de la langue française. Alors, je pense que je suis hyper dans mon élément, j'adore ça. On va parler paradis artificiel, le cabaret des oxymores, et on va parler d'une rencontre virtuelle entre la France et le Québec. Alors, que de mieux comme plaisir?
Oui, ben, en fait, habituellement, le Jamais Lu rencontre en vrai la France,
oui.
Mais c'est une belle alternative, le cabaret, pour continuer l'échange.
C'était une belle idée, en tout cas.
Oui.
Ça nous permettait de ne pas rater ce qui va se passer. Alors, donc, j'ai fait un petit peu de présentation en début d'émission, en expliquant ce qu'était un oxymore, en donnant des exemples. Donc, comment ça se passe?
Ben, en fait, l'idée, c'était de révéler les contradictions et les paradoxes que l'on vit au quotidien, surtout en cette période-ci,
oui.
Où on nous dit, d'être chez soi, mais d'être présent virtuellement, d'attendre, mais dans l'urgence quand même. Donc, il y avait beaucoup de tensions qu'on ressentait un peu dans l'air du temps. Et le Jamais Lu, je ne sais pas si vous avez un peu introduit ce qu'est l'organisme du Jamais Lu. Mais en fait, on est un organisme de développement de la dramaturgie qui met en place des festivals et des événements théâtraux pour justement présenter des textes inédits, donc des textes de théâtre inédits qui a la particularité de révéler un peu ce que les auteurs et les autrices ont de plus urgent à dire dans l'air du temps. Donc le cabaret est un peu ce mandat-là de...
En tout cas, pour y avoir assisté plusieurs années de suite, c'est un vrai plaisir que d'y aller, que d'entendre tout ça. Enfin, vraiment, c'était déjà un très bon moment à passer. Et savoir qu'on aurait dû s'en passer aurait été dommage. Donc, c'est bien d'avoir déjà fait un cabaret virtuel. C'est mieux que rien.
Oui.
Et je donnais comme exemple, justement, ici, le mot « révolution tranquille », puisque c'est un...
Oui.
C'en est un.
Mais c'est particulier d'avoir choisi « révolution tranquille », parce qu'il nous apparaît même plus comme un oxymore, tellement que
c'est un moment de vie du Québec.
Historique. Oui. Oui, c'est ça. C'est un référent historique fort, mais de le voir, de le décomposer un peu en oxymore, de retrouver le sens de qu'est-ce qu'une révolution, mais qu'est-ce qu'un état tranquille, c'est que c'est un peu ce qui illustre l'auteur Emmanuel, l'autrice en fait Emmanuel Jiménez et Sidney Melhadeb dans le texte qu'ils ont écrit sur cette contrainte-là d'écriture, c'est l'état de stagnation un peu entre vouloir déborder, vouloir un peu se révolter contre quelque chose, mais d'être pris dans une posture sclérosée ou statique.
Oui,
c'est ça que le texte révèle, oui.
Vous dites qu'on entend s'enregistrer l'autrice libanaise Alaa Mougani dans sa salle de bain à quelques jours de l'explosion qui s'est passée à Beyrouth, par exemple.
Oui. Oui, l'oxymore qui était discrimination positive. Elle a vraiment... c'est un texte écrit dans l'urgence de sentir que la population à Beyrouth est divisée en différentes nations. Puis on sent vraiment que c'est à vif, là. C'est écrit de sa salle de bain juste après l'explosion. Elle a mis comme une couverte... sur elle pour comme étouffer le son parce qu'elle n'avait pas trop d'espace pour s'enregistrer. Donc, il y a quelque chose de peu écrit avec une fébrilité forte. Puis, c'est vraiment un texte poignant pour ça. Oui, vraiment. Oui.
Oui, parce qu'on l'entend justement dans ce qui est expliqué comme d'autres artistes qui viennent aussi s'exprimer sur des enjeux raciaux, sur le capitalisme, sur la transmission entre les morts et les vivants, Émilie Monnet aussi, enfin... Et il va y avoir, donc, dans ce que je lis, une musique qui entoure ces discours, c'est ça?
Oui, En fait, Fred Costa, qui est notre concepteur sonore, qui, à chaque fois qu'on fait un cabaret lors du Festival du Jamais Lu à Paris, vient souligner, en fait, les textes des auteurs en les mettant en musique. Puis ça, ça a comme pour effet de créer un... Pardon, il y a du vent, désolée. Oui. Est-ce que vous entendez le vent? Ou est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, je vous entends bien.
Oui,
ça, okay, ça va.
Oui, c'est ça. Donc, le Jamais Lu, en fait, l'idée, c'est de créer des événements qui sont aussi très festifs puis décomplexés, parce que souvent, ce sont des thèmes, peut-être, puisqu'on parle justement d'actualité, souvent, on a quand même une posture très politique dans notre façon d'amener les sujets. Les auteurs, on les voit comme des porte-paroles de la société, donc qui viennent un peu souligner...
Il y a des...
Si
je peux me permettre, il y a des choses qui font sourire, mais il y a des choses qui, dans ce qu'on vit aujourd'hui, moi, celui qui m'a interpellée, c'est Contrainte libératrice.
Oui, Contrainte libératrice.
Franchement, on est en plein dedans.
Mm-hmm. Ouais. Oui, c'est ça. C'est de sentir qu'on est pris dans quelque chose qu'on a envie de sortir. Puis, qu'est-ce que vous avez aimé de ce texte-là? Je suis curieuse.
Non, mais je l'ai pas encore lu complètement, mais j'étais interpellée déjà par le titre. C'est celui-là vers lequel je voulais aller, parce que Contrainte libératrice me parlait de ce que je ressens là maintenant. Je me sens contrainte et j'attends une libération, donc je suis dans ce mouvement-là. Voilà.
Oui, c'est ça. Contrainte libératrice est assez fort. Puis vous avez parlé de Mort vivant plus tôt, mais c'est Émilie Monnet, c'est une autrice qui a une voix tellement chaleureuse et chaude, et comme je trouve que le médium de l'audio, on est allé vers le médium de l'audio parce que justement on était contraint d'aller vers là, puisque habituellement on est dans l'art vivant. Mais il y a quelque chose dans la parole des auteurs qui enregistrent au plus près de ce qu'ils sont, qui prennent la parole eux-mêmes de chez eux, qui rend ça vraiment chaleureux et riche. Puis Émilie Monnet, justement, en parlant de ses ancêtres et de la transmission intergénérationnelle, puis de ce rapport à sa grand-mère.
Ça va tellement bien.
Oui, c'est ça, c'est vraiment beau. Puis c'est ça, c'est des rencontres entre c'est cette proximité-là avec les auteurs qu'on a, mais contrairement, en fait, l'avantage d'un projet audio comme celui-là ou numérique, c'est surtout de mettre en relation des personnes dans des géographies différentes. Donc
c'est ça, c'est le duo de la personne ici au Québec et la personne en France, avec leur façon de vivre et leur vision du monde et du mot aussi, j'ai envie de dire.
C'est ça. Ben, France, et pas seulement, on est allé un petit peu plus loin.
Oui, vous êtes allé au Bénin aussi.
Au Bénin, exactement. On est allé en Suisse avec Antoinette Richner. On est allé aussi Bénin, Liban, avec Alain Mougani, comme on a parlé.
Oui, bien sûr.
France aussi avec Alice Do, qui est... en Martinique, en fait. Donc, l'idée, c'est de lier le Québec au reste de la francophonie, parce que la francophonie, souvent, on est souvent dans un contact avec la France et le Québec, mais c'est intéressant d'aller chercher d'autres paroles qui sont autour, puis le Québec, pour nous, agit à titre de plateforme un peu tournante, qui est un peu une communauté francophone en Amérique du Nord, puis c'est un peu notre initiative, c'est l'idée de mettre en lien d'autres francophonies, donc justement des Caraïbes, avec celles de la France et de l'Afrique, de l'Europe et de l'Afrique. Donc, c'est cette idée-là de communauté francophone, parce qu'on a une même langue, puis l'avantage d'avoir une même langue, c'est de pouvoir partager des cultures différentes quand même, dans une aisance puis une facilité là, de se communiquer. Bon, on n'est pas pareil, on parle la même langue, mais on est tellement différentes, donc c'est vraiment intéressant de jouer avec ça dans le rapport interculturel.
Avant d'avoir une autre question pour vous, comment on s'y inscrit? À quel moment on peut aller les écouter? Comment ça se passe?
Les audios du paradis? Ou
non, pour aller écouter toutes... excusez-moi, pour aller pouvoir écouter tous ces textes.
Oui, ben les textes jamais lus. Mais en fait, on organise des festivals à Montréal au mois de mai. À Paris, habituellement, c'est au mois d'octobre. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le cabaret à ce moment-ci de l'année. C'est que d'habitude, on sera à Paris au Théâtre Ouvert, donc à présenter des textes. On en a un aussi dans la ville de Québec. Donc, c'est nos trois festivals. Puis, l'idée, c'est de... On lance des appels à textes largement parce qu'on veut... On veut justement recevoir des textes et découvrir des nouvelles paroles. T'sais, l'idée, c'est de jamais lu son mandat premier, c'est de revitaliser ou vitaliser les scènes théâtrales de demain. Donc, on offre l'appel à un large public. Mais dans le cas, par contre, du Paradis des Oxymores, on a vraiment choisi tous les auteurs en faisant compte justement de leur profil, puis de leur ce qu'ils ont à dire, puis d'une diversité de point de vue. Donc, justement, un Éric Noël qui, lui, écrit pour capitalisme vertueux. Il est dans la famille du Jamais lu depuis longtemps. C'est un auteur qu'on aime beaucoup. Par contre, une autrice comme Elena Studley qui, elle, est comme québéco-haïtienne qu'on connaissait moins et que depuis 3 ans, elle écrit autour du Jamais lu. Donc, puis Gabrielle Chapdelaine, par exemple, qui elle a terminé l'École nationale il y a quelques années, qui est plus une voix émergente. Donc, l'idée aussi autour du projet, c'est de mettre en relation une communauté d'auteurs, une espèce de famille que le Jamais lu a comme pour mandat de mettre autour d'une table puis de faire interagir ensemble. Donc, c'est vraiment ça notre
mandat.
Plus de bien en ce moment, ouais.
Alors, Fulgence a une question pour vous.
Oui.
Oui, Fanny Broussard, rebonjour. Alors, juste bonjour. En parlant de francophonie élargie, en parlant de l'Afrique, l'Afrique avec ses 14 pays francophones, c'est seulement le Bénin avec qui vous êtes rentré en contact, ou vous avez d'autres programmes ou bien d'autres projets avec d'autres pays africains francophones, bien sûr, de l'Afrique subsaharienne ou bien l'Afrique du Nord?
Pour l'instant, on n'en a pas, parce que c'est sûr que ça reste une géographie loin de chez nous, mais on aimerait beaucoup rencontrer plus de communautés.
Oui.
Mais par contre, l'effort surtout qu'on a en ce moment, c'est notre lien avec les Caraïbes. Puisque justement, tantôt, je disais qu'on agit à titre de plaque tournante de la francophonie en Amérique du Nord, en Amérique. On est moins investi dans les communautés francophones et africaines, mais justement, on essaie d'avoir ce mandat-là, ou c'est pas ce mandat-là, mais ce lien-là avec les Caraïbes francophones. Donc, c'est pour ça que le Jamais lu prévoit organiser un festival qui va se tenir à Fort-de-France dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années.
Oui, enfin, on ne sait pas encore quand, mais on verra au plus tôt possible.
Oui, c'est ça. Oui. Ben, on devait le faire cette année, donc on devait avoir la première édition en mars prochain, mais ça a été avorté pour les raisons qu'on connaît.
Ben
mais ce serait pas seulement qu'à Martinique, donc ça permettrait de rentrer en contact avec les communautés d'Haïti, de Guadeloupe, de Guyane. Donc, c'est un peu plus notre exploration en ce moment pour créer des liens avec d'autres francophonies. Mais j'aimerais beaucoup aussi découvrir les paroles du Mali ou du Sénégal.
C'est une initiative qui est une idée de Marcel Dubois, de vous. Et puis, c'est...
Les Caraïbes
c'est, Non, je reviens aux oxymores. je reviens là-dedans. Et c'est un partenariat avec le Consulat général de France à Québec, c'est ça?
Oui, exactement. Ben, en fait, c'est une présentation du Jamais lu, donc qui est Marcel Dubois et moi, et avec notre complice outre-mer, Marc-Antoine Cyr, qui lui est le directeur artistique sur place, donc à Paris, qui est un Québécois né d'origine québécoise, mais parisien, donc d'adoption depuis une dizaine d'années.
Ah, le pauvre.
Mais des fois, il s'en va se réfugier sur la côte amalfitaine. Ok.
Je comprends.
Un peu de la France. Mais oui, le théâtre ouvert est, qui est notre cadre d'accueil à Paris pour le festival. Mais le Conseil général de France nous a soutenus, qui est vraiment, vraiment une organisation vraiment proche aussi des auteurs. Puis qui,
d'accord.
Ouais,
je voulais qu'on parle un petit peu aussi du Jamais lu mobile.
Oui, oui, ben c'est ça justement, c'est pour y avoir parlé de notre mouture caribéenne. Ça fait plusieurs années, ça fait 6 ans qu'on est à Paris pour un Jamais lu en France. Et donc on développe le Jamais lu dans les Caraïbes, mais ça faisait pas tellement de sens de faire toutes ces initiatives-là. Sans
toucher tout le Québec.
Sans francophonie, c'est ça, extérieur, sans connaître ce qui se fait au Québec dans les différentes régions, territoires. Puis, Marcel Dubois, vous savez, d'Abitibi-Témiscamingue,
oui.
Moi, je viens des Laurentides. On a un rapport fort au territoire. Pour nous, sans tomber dans la géopoétique, parce que je pense qu'on a envie de faire découvrir des paroles des quatre coins du Québec, mais pas de rentrer dans des stéréotypes ou d'archétypes d'auteurs qui viennent de telle région. Pardon, j'ai été interrompue.
C'est
donc, c'est ça, on aimerait donc pouvoir mettre de l'avant des paroles qui, c'est ça, alternatives, nouvelles, et aussi, alors qu'il y a plein d'initiatives à même ces régions, Mais l'écriture théâtrale, ça reste quand même tellement niché. Je pense que comme par exemple en Estrie, où le Jamais lu mobile va s'inscrire, parce que si je récapitule, ce serait un projet qui allierait l'Abitibi, Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Estrie et la Gaspésie.
Oui.
Mm-hmm. Donc, on va choisir dans les prochains temps un texte par région, puis on va créer un projet de balado-diffusion en attendant, donc on puisse faire des festivals dans chacune des régions, mais ce serait une première rencontre audio en présentant des textes de chaque région.
On pourrait entendre donc, en mars prochain.
Oui, en mars prochain. Donc en mars prochain, on va faire un festival de balado théâtral dans l'idée,
d'accord,
que ce ne soit pas seulement des épisodes qu'on diffuse, mais qu'on donne un rendez-vous comme pour que tous les auditeurs, auditrices puissent se connecter ensemble pour entendre collectivement un texte inédit.
Et dans les, il nous reste 2 minutes, on est à la fin de l'entrevue, mais juste un petit mot pour dire que le festival du Jamais lu qui n'a pas pu être fait va être en rattrapage entre janvier et mars, si on croise les doigts, si d'ici là on peut...
Oui, c'est toujours ça un peu. C'est,
oui,
c'est une type de déception dans le dernier temps.
C'est
de comme, c'est sûr qu'on continue à travailler pour pouvoir stimuler les auteurs et tout, pour leur donner une plateforme ou un espace qui puisse encore continuer à réfléchir à de la création. Mais c'est sûr que de comme construire des festivals puis les démanteler comme à chaque 2 mois, c'est énergivore quand même. Mais
oui.
Le 19e, on a donc décidé de quand même le diffuser en janvier. Puis si on n'y arrive pas, les auteurs, les autrices vont quand même avoir l'espace de temps en répétition pour pouvoir créer un laboratoire autour de leur projet. Donc, on maintient en ce moment, on est en train de former les équipes de création, d'organiser les répétitions, puis de travailler sur les textes. Parce que même si c'est pas en janvier que vous allez pouvoir peut-être écouter ces nouveaux textes-là, c'est des textes qui vont, c'est des auteurs qu'on adore, qui vont être sur les scènes de demain.
On croise les doigts. On croise les doigts. On se dit bonne chance et on croise les doigts pour que ça puisse se faire et qu'on puisse le rattraper.
On a besoin d'entendre des nouveaux textes.
On a besoin d'espoir pour ça.
Ouais,
ok.
Vraiment.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et puis d'avoir pris le temps. J'ai très hâte de tout lire et de tout entendre, en tout cas. Et puis, à un prochain festival où on sera dans la salle du théâtre aux Écuries.
Oui, Sentir les rires, puis sentir oui. l'énergie, puis prendre une bière à la fin, puis parler ensemble.
Ah, quel bonheur!
Oui, ça,
merci.
Merci beaucoup,
Fanny. Merci beaucoup, merci.
Bonne journée.
Au revoir.
Bye.
Et bien voilà, on est à la fin de cette émission, donc où on a parlé oxymore, et puis allez écouter sur le site du Théâtre aux Écuries. Donc voilà, le Jamais Lu, le festival du Jamais Lu, qu'on retrouvera, je l'espère, très bientôt. Et puis on dit aussi aux gens, tu leur dis, Fulgence, qu'ils peuvent partir en Australie, mais qu'ils fassent attention à ne pas mettre les mains n'importe où.
Oui, oui. Ne pas aller dans n'importe quelle forêt là-bas.
Et que si vous n'avez pas porté plainte contre Apple, eh ben vous ne toucherez rien. Voilà. C'est ce que j'ai retenu, moi.
C'est ce que tu as retenu. Oui, oui, oui. Il doit payer deux fois. Une fois 113 millions et puis une fois 500 millions. Voilà.
Alors, voilà. Bah, merci.
Merci, Maurice.
Merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Merci à Fanny Brossard, Charbonneau
oui,
d'avoir
oui.
été là.
Et puis un grand merci
et
à tous.
Et puis merci Maurice et bon week-end
à toi,
vous deux,
toi aussi.
Toi aussi. Et puis on se retrouve lundi.
Oui, c'est demain.
Prochain.
Demain c'est samedi. Hein.
Et on se retrouve lundi.
Allez,
ça suffit qu'on se voit déjà du lundi au vendredi.
Allez.
Je vais pas encore passer mon week-end avec toi.
Allez, bon week-end Arlette.
Au revoir à toutes et tous.
Prenez soin de vous.
À bientôt.